Georges Baume, Le Maudit. Chapitre 1. C'est, au-dessous de l'Auvergne, le royaume de la pierre, les rochers soulevés en montagne ou étendus en plaines uniformes, très haut vers le soleil. Il y a pourtant de la grâce et de la fraîcheur, là-bas, dans l'étroite vallée du Puech, non loin de Millau. Les paysans, au long d'un ruisselet, y vivent de peu, comme les oiseaux. Un des plus fortunés, Cabrol, y possédait 4 moutons, plus un champ de seigle qu'il avait mis 10 années à conquérir dans les cailloux de la colline. Grand, bien bâti, il portait dans ses yeux bleus, sur ses fortes lèvres rasées, la douceur d'une âme instinctivement noble, égarée parmi les âmes simples de la montagne. Sa femme, Nathalie, au ferme visage luisant comme la peau d'une châtaigne, avait gagné dans sa fréquentation le sens de la bonté. Néanmoins, des colères la tourmentaient parfois lorsqu'elle apprenait les médisances du hameau et elle excitait Mionette, sa petite de 10 ans, à détester les envieux. Car on lui en voulait à Cabrol de ne jamais se lasser au travail, de réussir dans ses tentatives. Le croyant assisté de quelques démons, on l'appelait le maudit. Un matin, pour échapper à cette hostilité qui dérangeait en lui une vague vision du juste et du beau, il monta sur le Causse avec tout son bien. Là-haut, au centre de l'immense terre abandonnée au vent et au soleil, habitait la famille des Noguets, 3 créatures que l'isolement avait rendues sauvages. Dans son gîte tapi au creux d'un bloc, Noguet, une grande barbe aux yeux noirs, avait eu beaucoup de peine à trouver pour sa fille Andréline, déjà grandette, un coin suffisant à la couche de paille. De l'autre côté du chemin, presque méconnaissable tant il était peu fréquenté, un autre gîte émergeait sans toit ni porte. C'est là que Cabrol eut le courage de s'installer. Le maudit sur le Causse. Noguet le regarda venir d'un air sournois, sans répondre à son salut. Puis il rentra chez lui, les mains derrière le dos, en grommelant vers sa femme, une jolie louve brune et mince qui taillait le pain de la soupe. « Si Cabrol croit que je m'en vais le supporter chez nous, « bah, nous avons pris dans ce désert tout le sol labourable. Il fera comme l'autre, après qu'il aura beaucoup cherché pour rien, il s'en ira. » Mais ce Cabrol est si roué avec la terre, il lui arrache des secrets qu'on n'y comprend rien. Noguet se tut. Un moment, il considéra sa femme, puis sa fille, une vraie tête osseuse du Rouergue, les mâchoires ardentes et les yeux bridés, de longs cheveux blonds en broussailles sur les épaules. Toutes les deux écoutaient comme un oracle leur maître qui déployait pour elles la force de son bras et de sa volonté dans la solitude. Andréline les pillait maintenant avec une sorte de malaise, avec, devant les choses nouvelles, cette inquiétude des enfants que la misère a douée de précocité. « Toi aussi, ma petite, lui dit-il, je ne veux point de familiarité avec ces gens-là, pas même avec la fillette qui est de ton âge. » Ils mangèrent dans la fumée du foyer, laquelle emplissait la cuisine, se dérobait à demi par la porte basse. Au fond, derrière le mur, on entendait s'agiter les moutons sur la paille. De l'autre côté du chemin, les Cabrol étaient si fatigués qu'avant le soir, ils s'endormirent sur des feuilles mortes. Le lendemain, Mionette, qui aimait le babil de l'eau sous les noisetiers, la chanson des vergers mêlée à celle des oiseaux, eut le cœur serré devant cette immense Causse sans relief dont les brumes de l'aube noyaient les limites. En se détournant, elle vit, sur le seuil de sa porte, Andréline qui l'examinait avec une sorte de terreur. Alors, une minute, l'une et l'autre se regardèrent, émues malgré tout du désir d'échanger des paroles, du plaisir d'être sur le Causse deux camarades heureuses. Mionette sourit et, déliant ses mains, elle eut un élan vers Andréline lorsque celle-ci, le front baissé, rentra précipitamment. Mionette fit la moue. Andréline l'éviterait-elle encore, de même que les enfants du hameau, par jalousie? Pourtant, elle se consola en se disant qu'elle finirait bien par la séduire et par l'obliger à être bonne. Tandis qu'elle songeait, son père la rappela. « Allons, viens nous aider, petite. Nous travaillons avec ta mère. » Nathalie débarrassait le sol de ses décombres. Mionette les porta au dehors, sur une brouette qu'on avait trouvée dans la cheminée. Les jours suivants, Cabrol, en Robinson habile et ingénieux, confectionna une échelle maintenue avec des clous de bois. Il confectionna une table, 3 chaises, une armoire. Au moyen de son échelle, il grimpa sur le faîte des murs qu'il fallait achever, nivelés avec des pierres, tant bien que mal et carrés à coups de masse. D'un mur à l'autre, il disposa en travers des branches de pin, et là-dessus, toutes les herbes, tout le chaume qu'on put ramasser sous le bosquet de pin là-bas. Au bout de 15 jours, la masure avait changé d'aspect. Le sol nettoyé, des volets aux fenêtres, une cloison de planches pour la couche de mionnettes, une autre pour l'étable des moutons dont la laine réchauffait. Ils avaient tant travaillé qu'ils oubliaient un peu leurs voisins, lesquels, du fond de leur terrier, les guettaient chaque jour. Ils durent bien pourtant songer aux courses, ne fût-ce que pour choisir un sol labourable et une pâture pour le petit troupeau. Un matin, Cabrol partit, sa pioche sur l'épaule. Il était seul, bien menu sur le plateau de pierre grise rayonnant au soleil. Parviendrait-il à aimer ce désert où ne se répercutait aucune sensation du monde? Oui, par le travail et par les espérances, par le malheur aussi, hélas, il y prendrait racine. En attendant, où aller? Toutes les pierres étaient semblables, broyées par les pluies, rongées par les vents, depuis des siècles. Il hésitait au milieu du chemin lorsqu'il aperçut derrière un mur la silhouette épaisse de Noguet penchée sur des sillons. Pourquoi, ma foi, aurait-il peur du cosnard? Souvent, si les hommes ne s'entendent pas, c'est faute de s'expliquer. Donc Cabrol s'en fut droit au labour et là, déposant sa pioche, s'accouda sur la crête du mur. « Bonjour, Noguet !» Celui-ci, surpris à l'improviste, chancela d'émotion. Ensuite, les yeux grands ouverts, il se releva lentement, la poitrine à l'aise. « Eh bien, qu'as-tu, Noguet? Je viens tout bonnement te demander où je trouverai un morceau de sol labourable. » Noguet, détroussant sur sa lèvre rouge des poils touffus de sa barbe, répondit après un silence. « Tu te moques de moi ?»« Me moquer ? Tu es le plus fort et tu feins de te renseigner. » Ne vois-tu pas que je suis ton frère de solitude et d'indigence? Pourquoi es-tu venu ici me déranger? Le cause est assez vaste pour nous deux, je suppose. Toi aussi, tu es jaloux? Et de quoi, mon Dieu? Viens voir ma masure comme elle est humble et primitive. Je sais, tu as de jolies paroles, mais tu ne me séduiras pas, toi, le maudit qu'on a chassé du puèche. Tu es venu bâtir ici, te créer un domaine, et comme la chance te favorise, je vais m'enrager de te voir prospérer bientôt, tandis que moi, depuis des temps et des temps, je peine plus que nos vautours à acquérir ma pitance. Par exemple, la chance ne me favorise guère la première fois que je visite le Causse. Seulement, je ne t'en veux pas. Que le malheur te menace et tu me connaîtras. Je ne veux point de ta charité, ne regarde jamais ma maison, que tes femmes ne regardent jamais les miennes. Cabrol, se contenant sous l'injure, reprit sa pioche et s'éloigna. À force d'examiner les environs, il distingua vers l'occident quelques mottes de terre brune qui mamelonnaient, telles qu'un récif émergeant sur les flots de la mer. Il s'y rendit. La course fut longue. Ayant gravi le sommet, il remarqua qu'une veine de terre friable s'en allait vers le chemin. Il la suivit pour s'arrêter à une demi-heure de sa maison, car la veine cessait dans la brousse des rocailles. « Tiens, pensa-t-il, je vais creuser là et peut-être rencontrerai-je de l'eau. » En effet, sous la carapace des causses, il doit y avoir sûrement des réservoirs d'où sortent les ruisseaux qui, des flancs de la montagne, vont alimenter la rivière du Tarn. Sans différer, il bêcha. Noguet, du bord de son enclos, l'observait patiemment, avec de l'épouvante, une colère. Et, dans sa haine, il eut le sentiment qu'il lui serait légitime d'exercer une vengeance, d'empêcher coûte que coûte Cabrol de vivre en ce royaume qui était le sien. Le soir, dans sa masure, à la lueur du carcel, il interrogea sa femme. « Est-ce par hasard que les Cabrol auraient essayé de te parler aujourd'hui ?» Nathalie a rôdé sur le chemin, mais chaque fois que je la sentais trop proche, je rentrais. Ah, en voilà une qui est souriante. S'ils ont de la misère, ce n'est pas elle qui emporte les rides, je t'assure. Pourvu qu'ils ne nous jettent pas un sort. S'ils nous ensorcellent, nous ne pourrons être tranquilles nulle part. Et toi, Andréline, tu n'as pas vu l'enfant d'à côté ? Si,
Pendant que je gardais les moutons au bosquet de pin, elle a essayé de s'approcher. »
À quelques jours de là, Andréline, sous les pins, filait si attentivement sa quenouille qu'elle ne vit point arriver Mionette avec son troupeau. Celle-ci, à petits pas, s'insinuait vers le talus. Mais le froissement d'une haie troubla le silence et Andréline, réveillée dans son ouvrage, leva la tête.
« Oh mon Dieu !» s'écria-t-elle en rassemblant ses moutons. « Allons-nous-en »
Balthazar, son chien maigre et velu, grogna, courut au-devant de l'étrangère pour la mordre. Au milieu de ses moutons effarouchés, Mionette s'arrêta un moment de frayeur. Le chien, d'un bond, la saisit par le tablier. Elle s'effraya davantage. Elle faisait mine de rétrograder vers le chemin, lorsque, sans savoir, elle toucha le bon chien de garde avec ses mains, qui était douce. Balthazar eut-il peur à son tour, ou bien subit-il aussitôt le charme de l'enfant qui savait attendrir les bêtes? Il desserra ses dents aiguës et, avec ses yeux de feu, il la regarda, caressante et soumise. Ensuite, à plusieurs reprises, il se mit à gambader de Mionette à Andréline avec une allégresse égale, comme pour les unir. Andréline n'osait plus bouger, gagnée par l'émotion bienveillante de son chien. Pendant que Mionette s'asseyait auprès d'elle, sur le talus, elle serra sa jupe autour de son corps, dissimula ses mains.
« Tu as encore peur ?» lui dit la fille du hameau. « Je touche les arbres, les bêtes, les maisons. Ils ne s'en portent pas plus mal. Comment t'appelles-tu » « Tais-toi. Moi, je m'appelle Mionette. » « Ne me touche pas. Mon père m'a dit de te craindre et il sait beaucoup de choses. » « Le mien aussi. Il doit même en savoir davantage, puisque nous habitions dans la vallée. Seulement, il est bon. Il me recommande de vous éviter, vous autres, pour ne pas provoquer votre colère, et tu vois que je ne te fais aucun mal. »
« C'est vrai, » répondit Andréline, qui se sentait faible, dominée par la tendresse de Mionette. Un moment, elles contemplèrent, de sous les branches des pins noirs, le plateau vaste sommeillant à la lumière bleue du crépuscule. Le plateau étincelait çà et là de clarté blonde, monstres aux écailles frémissantes, sur lequel s'étendait le grand ciel paisible, si grand qu'on entendait, comme sous la voûte d'un temple, résonner sourdement la voix confuse de l'espace. Là-bas, dans les vallées et les ravins, les hommes connaissent la misère de vivre ensemble, enchaînés aux mêmes intérêts et aux mêmes passions. Ici, sur cette terre désolée, le vent seul se lamente parfois. Les deux masures de Cabrol et de Noguet semblaient, dans l'éloignement, deux mottes brunes soulevées par des taupes. La main dans la main, songeuse, elle participait du calme de cet infini où elle n'eusse pas même éprouvé à cette heure le sentiment de l'existence, si elle n'avait pas connu, au souvenir de l'hostilité de leurs parents, le plaisir défendu de lire un peu leurs âmes. Le soir indolent dispersait à l'horizon ses poussières, et toutes les deux pensaient que bientôt, en rentrant, elles en seraient recouvertes ensemble, fraternellement. Le chien s'était couché à leurs pieds. Une fois, il renifla le vent frais des brumes avec anxiété, de même que s'il eût senti passer dans le voisinage une créature mauvaise. Alors la fille du hameau, en le caressant, rompit le silence.
« Tu t'appelles donc Andréline ? Eh bien, voilà que nous nous connaissons à présent. » « Ah, que nous serions contentes si on pouvait aller d'une maison à l'autre sans se dire « Aïe, que va s'imaginer le voisin ?»«
C'est vrai. Mon père voudrait vivre sans contrainte, mais le tien ?»«
Le mien, quand il a conçu quelque chose, ainsi qu'il ne nous surprenne pas ensemble, il me battrait. Tu ne l'as pas vu venir au moins ?» Je suis tellement troublée que je n'ai pas surveillé avec assez d'attention les broussailles autour de ce bosquet. »
Pauvre ! Mionette l'embrassait avec effusion, glorieuse d'avoir rencontré sur le causse une enfant de son âge à aimer. Elles se regardaient, innocentes et ravies, lorsque soudain Noguet, qui de son enclos les ayant aperçus, s'était avancé en rampant, se dressa, hirsute et noir, sur le talus.
« Canaille que vous êtes ! »
cria-t-il. « Toi, je t'avais pourtant défendu cette petite du maudit qui va te corrompre. »
« Moi, corrompre quelqu'un ?» répliqua Mionette. « Ai-je l'air d'une impie ?»«
Oui, c'est ça, une impie. Pourquoi cherches-tu mon enfant ? Tu veux l'envelopper dans ta honte pour n'y être point seul. Si ton père ne te corrige pas, c'est moi qui m'en chargerai. Tiens !»
Énoguée, de sa main lourde, frappa la figure de Mionette entre les yeux. Mionette se crut aveuglée du coup. Mais par fierté, autant que pour ne pas irriter ce loup davantage, elle se contint de se plaindre, couchée sur le talus, le front entre ses bras.
« Oui, fais des grimaces, comme si je t'avais tué. Quant à toi, file à la maison !»
Ayant sifflé son chien, il accabla de coups et de gronderies Andréline, qui jurait bien de ne plus se laisser attendrir par l'ensorceleuse. Mionette, quand elle sentit loin, hors de sa voix, l'homme du mal, se releva péniblement, la figure meurtrie, les paupières cuisantes de déchirure.
« Ah, mon Dieu !» gémit-elle sur le chemin, au milieu de ces bêtes qui se rapprochaient d'elle, d'instinct compatissante. « Déjà la discorde sur le plateau et à cause de moi. Mon père et le père d'Andréline vont se battre. Je serai pour toujours privée de jouer et de rire, d'aimer d'autres personnes que mes parents. »
Les poussières du soir, plus épaisses sur les frontières du Causse, se soulevaient en longues vagues, au bord desquelles les roches érigeaient leurs silhouettes fantastiques et les vautours erraient en planant, pareils à de noires étoiles. Là-bas, on s'inquiétait du retard de Mionette. Heureusement, ce n'était pas encore la saison des loups, et d'ailleurs, ils ne sortent qu'à la nuit. Quand elle rentra, Cabrol, Robinson laborieux, clouait le banc de bois qu'on se proposait de mettre devant la porte pour les longues veillées de l'été. La voix de Mionette se faisait câline et rieuse en remisant les bêtes à l'étable. Afin de dissimuler ses blessures, elle courbait le front. Mais pendant le repas, elle ne put mentir longtemps et, toute bouleversée devant le courroux de son père, elle raconta l'agression de ce brutal de voisinage. Son père, à ce récit, trépignait de désolation et de colère. Sa mère pâlissait à l'émotion des souffrances qu'on allait endurer de nouveau.
« Lui !» s'écria Cabrol. « Lui, ce sauvage, battre mon enfant ?» « Non, ne me supplie de rien, Nathalie. Je m'en vais lui demander compte. »
Il sortit, ardent, désordonné. Noguet, en prévision d'une querelle, avait barricadé sa porte, mais de façon si maladroite que le voisin la fit céder d'un coup d'épaule. Noguet, à cette apparition, clama furieux, les poings levés.
« Le maudit chez moi ! Tu vas me souiller la maison, m'empoisonner le peu que je possède, et mon enfant, et tout, et faire mourir mon âme avant la mort du corps. Non, va-t'en. »
des mots, écoute. »
À la lueur du carcel, sous la voûte basse du plafond, les deux hommes paraissaient l'un près de l'autre, deux cheminots en détresse se disputant un gîte.
« Oh, n'avance pas davantage !» suppliait Noguet. « Tu n'as plus devant toi, maintenant, une enfant sans défense. »« Oh, te toucher, non, je ne veux pas. Si tu t'obstines à souiller ma maison, vois-tu, c'est mon enfant à moi que je vais frapper. »« Oh, le païen sans courage, mais c'est toi qui es le maudit. Oui, sois maudit toujours. »
À ces mots, Noguet, de même que s'il fut blessé au cœur, chancela, tomba sur une pierre auprès du foyer. Dans sa croyance superstitieuse que le paysan du hameau était l'être fabuleux, prédestiné à étouffer ses pareils à l'ombre de son âme, comme l'arbre étouffe sous sa feuillée les plantes jeunes, il se crut vraiment voué au malheur, à la damnation éternelle, lui et les siens.
« Pauvre !» gémit sa femme Louisa, qui, dans la même épouvante, abritait Andréline entre ses genoux.
« Je pense, » déclara Cabrol un peu solennel, « je pense que tu te souviendras que le premier qui a accompli le mal, c'est toi. »«
Oui, oui, va-t'en !»
Quand il entendit se refermer sa porte sur les ténèbres du plateau, Noguet retira ses mains de la face. Il ne mangea plus, malgré les exhortations de sa femme, qui, pour l'apaiser, le caressait au bras, lui tendait son couteau. En titubant, il s'appuya au mur.
« Cet homme, tout de même, cet homme, il nous a maudits. Oh, mais je ne le laisserai pas faire. »«
Il n'est pas plus fort que toi, tu n'as qu'à ne plus le regarder. »«
C'est lui qui nous regarde. Je parie que chaque nuit, lorsque tout sommeille, il rôde autour de la maison. »« Ah, mon Dieu, comment nous en aller d'ici, puisque nous n'avons rien, puisqu'il n'y a pas sur terre d'autres endroits que le Causse où il nous soit permis de vivre en étant aussi pauvres dans notre foyer. » L'idée du mal s'accentuait sur sa face, la sombrissait comme les nues de l'orange voilent les rocs du plateau. Il s'interrompit de parler parce qu'il sentit entre ses jambes son enfant qui se réfugiait en lui, désolée et craintive, dans cette pénombre où résonnait sa voix de maître, qu'elle ne savait pas encore si méchante. « Allons-nous coucher, dit-il, n'usons pas trop de lumière. » Bientôt, dans l'obscurité du logis, son idée de vengeance, qui était pour lui l'idée d'un sacrifice nécessaire à consommer, grandit, se développa comme une montagne soleil. Cet ensorceleur de Crabole connaissait tous les pièges. Comment donc le tuer? Les yeux ouverts, Noguet, pour s'inspirer peut-être du mystère des choses, écouta de longues heures la mer des ombres roulant par le plateau, le vent libre qui, par intervalles, secouait la maison ainsi qu'une barque sur la rivière du Tarn.